Prions. Merci Père par cette belle journée, j'allais presque dire d'été, d'hiver, que nous rassembler pour nous pencher sur ta parole, pour continuer notre étude sur ton plan rédempteur, le plan de rachat dont nous sommes bénéficiaires. Et notre remercions, nous sommes pleins de gratitude envers toi. Merci pour ce que nous allons apprendre de nouveau aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, faisons un petit résumé. Je ne sais pas si vous ressentez le besoin ou non, mais c'est toujours une bonne chose à faire. Remarquez le sous-titre qui est très parlant, très choisi. Développement progressif. Ça ne se passe pas en un seul siècle. Ça prend des siècles et des millénaires. Du plan rédempteur de Dieu. Alors, nous connaissons la fin de l'histoire. Le plan rédempteur de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il ne faut pas oublier la résurrection. Mais là, on n'est pas encore là. On est avec une nation qui est censée être le peuple de Dieu et être un modèle pour les autres. Le principe fondamental de la Bible, en tout cas un des principes, ça se défend, mais surtout de ce cours, la gloire de Dieu va remplir toute la terre, on pourrait même dire l'univers. Comment va-t-il faire pour son projet? Il va choisir un homme, Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Et de ces trois patriarches va venir une nation, pas simplement une nation, mais une grande nation. Et toutes les familles de la terre, toutes les ethnies de la terre seront bénies par cette nation-là. Que faut-il pour une nation? Des gens, un territoire, un gouvernement. Il faut ces trois éléments. À partir des trois patriarches viennent donc 12 fondateurs des 12 tribus d'Israël. Joseph, le 11e, devient un sauveur de sa famille en descendant en Égypte contre son gré, mais là, il va sauver sa famille de la famine. Mais surtout, c'est là que le Seigneur va multiplier la famille de Jacob. Et c'est là, dit-il, je vais faire de toi une grande nation. Donc, en population, il se multiplie. 4 siècles plus tard, ils doivent en sortir. Et Dieu s'appelle dans la Bible par le titre « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Par cette phrase, il nous rappelle la grande promesse. On peut dire Dieu a fait des promesses précieuses dans la Bible. Pierre parle comme ça. Oui, mais une grande promesse fondatrice. « Je ferai de toi une grande nation et par toi, par cette nation, je vais bénir toutes les familles, toutes les nations de la terre. » Donc, les trois patriarches, quand on lit cette phrase « Abraham, Isaac et Jacob », on est censé se rappeler le plan de Dieu depuis le début. Il ajoute « Celui qui fait sortir son peuple du pays d'Égypte, la plus grande manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu jusqu'à ce que Jésus ressuscite d'entre les morts. » Moïse devient le chef libérateur et ils sortent pour recevoir le deuxième élément pour une nation, c'est un gouvernement, c'est-à-dire des lois, les 10 commandements, mais toutes les autres lois aussi, une certaine culture nationale, et vous ne serez pas comme les Égyptiens du pays duquel vous sortez, vous ne serez pas comme les Cananéens, vous serez différents, vous serez à part, un peuple saint, pour adorer Dieu et pour être un modèle pour les autres. Seulement, ils se sont rebellés à Kadesh Barnéa. Nous ne pouvons pas prendre le pays. Ah, et pourtant le Seigneur avait dit, je vous donne le pays. Et donc c'était un manque de confiance, vous savez. On m'a fait remarquer il y a quelques années, qu'est-ce que irritait Jésus le plus dans les évangiles? Plusieurs choses. L'opposition des pharisiens et des hommes de loi, d'accord. Mais il était irrité, je ne crois pas qu'il faut amenuire ce verbe, irrité, par le manque de foi des disciples. Et donc ça me lance un grand défi. Et là, à Kadesh Barnéa, le résultat, c'est qu'ils ont erré dans le désert 40 ans, enfin 38 années supplémentaires. C'est à ce moment-là, à Kadesh Barnéa, que le Seigneur a donné cette phrase, « La gloire de l'Éternel remplira toute la terre ». Comme quoi, cette génération-là allait être mise de côté, mais le plan de Dieu continue. Et maintes fois, dans notre étude, dans l'Ancien Testament, on a vu que le plan de Dieu, le projet de Dieu est attaqué par différentes personnes. Mais il continue. Josué les mène dans le pays, fait la conquête du pays, divise le pays en 12 entre les tribus, et à la fin de sa vie, deux sermons absolument formidables qui méritent qu'on s'y penche de nouveau, Josué 23 et 24. Choisissez qui vous allez servir. Attachez-vous à l'Éternel. Veillez sur vos âmes. Vient la période de 4 siècles, des cycles des juges, où le peuple se rebelle de nouveau contre Dieu, adore des idoles païens, reçoit une correction, on va dire, c'est pas une punition, la punition du péché c'est la mort éternelle, les temps de feu, mais c'est une correction. Ils crient vers le Seigneur, une seule fois c'est écrit qu'ils ont dit « nous avons péché ». Le Seigneur envoie un libérateur, qu'on appelle un juge, mais à la mort du juge ça recommence. C'est pas une grande nation. C'est une nation, ils ont 3 éléments, hein. ils ont des gens, ils ont un territoire, ils ont un gouvernement par tribu, c'est pas un gouvernement national mais par tribu. Mais ce n'est pas une grande nation, ni en puissance, ni spirituellement. Donc, Samuel, il va unifier le pays. Il va unifier le pays, Samuel, par un grand réveil, plusieurs réveils peut-être, mais un très grand. Et donc, Samuel, c'est le premier d'une longue lignée de prophètes professionnels. À la fin de sa vie, Samuel entend le peuple dire « Ah, c'est bien Samuel, mais tes fils ne te suivent pas. Nous voulons un roi. » Mais ils ajoutent « Comme il y en a chez toutes les nations. » En fait, s'ils avaient demandé « Donne-nous, Seigneur, un roi selon ton cœur qui sera ton homme pour nous diriger selon ta parole. » D'accord. Mais ils ont dit « Nous voulons un roi comme il y en a chez toutes les nations. » C'est le roi Saül, symbolisé par une seule couronne, parce que c'était le seul roi de cette dynastie. Et malheureusement, Saül, pas seulement par sa désobéissance, parce que David aussi a désobéi, mais par son manque de... Il n'a pas su se repentir, vraiment se repentir. Il n'a pas su confesser son péché, comme nous tous avons des problèmes à nous repentir aussi, à admettre. Et donc, c'est une leçon pour nous. Et Dieu a dit, je ne te parle plus. C'est terrible ça, que le peuple de Dieu ne le reçoive plus, la parole de Dieu. Mais de nouveau, la phrase n'est pas donnée de nouveau dans ce contexte, mais de nouveau nous rappelons de toute façon que Saül suit le programme ou pas, Dieu va accomplir son plan et le fait par donc David et Salomon. À ce moment là en 1000 ans entre le bonhomme, c'est Abraham qui a reçu la promesse pour la première fois, on peut y mettre 3 bonhommes si vous voulez, et la couronne c'est David et Salomon. C'est vraiment une grande nation. Militairement, ils ont conquis toutes les nations aux alentours. Prospérité, ils sont extrêmement riches. Sagesse, oui, David, et pas seulement Salomon, David a aussi la sagesse dans ses psaumes, c'est merveilleux. Spirituellement, ils suivent le Seigneur, même Salomon à ses débuts. Et Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Voilà une grande nation. Qu'est-ce que le Seigneur veut en faire? Eh bien, il veut attirer les autres peuples. Comme la reine de Saba qui est venue, ça aurait pu se multiplier. C'est pas explicité dans le texte biblique ça, mais je le crois fermement, c'est une interprétation, mais que d'autres peuples seraient venus apprendre la loi de l'Éternel, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 2, qui concerne un avenir, mais qui aurait pu arriver à ce moment-là, et qu'ils repartent chez eux et enseigner. Donc on me dira, mais est-ce qu'il n'y avait pas besoin que l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde vienne et soit mis à mort? Bien sûr. Donc, nous abordons la séance 13 aujourd'hui. Il y a un peu d'eau pour nous rafraîchir. Je crois qu'on a... Donc, en haut à droite de votre support, vous avez ce symbole-là qui représente la scène 1. Non, l'étape 1 de la scène 2 de l'acte 1. Un petit révision, acte 1 c'est la nation, acte 2 sera autre chose. Scène 1 c'était la construction d'une grande nation entre Abraham et David et Salomon. Et maintenant ce sera scène 2, la nation, la déchéance de la nation. En d'autres termes, la nation sera divisée et dispersée. Dispersée, ce sera très grave, c'est une très grande tragédie. Il faudrait que je répète ça 3 ou 4 fois cet après-midi, c'est une très grande tragédie que nous étudions. Aujourd'hui, une très grande tragédie spirituelle, nationale dans la vie d'Israël. Donc, acte 1 de la pièce de théâtre, la nation. Scène 2, la nation, la déchéance, la nation divisée et dispersée. Scène 1, un royaume divisé entre le le sud, Juda et Benjamin, qui font le royaume de Juda, et le nord, qu'on appelle le royaume d'Israël. Ils sont tous israélites, mais on appelle le nord le royaume d'Israël. On l'appelle aussi Samarie, d'après sa capitale plus tard. Grosso modo, ce serait mieux de dire le royaume du sud, le royaume du nord, comme ça on se rappelle mieux. Remarquez que dans le royaume du sud, Juda, il y a un carré, ça représente Jérusalem et le temple, et la gloire de Dieu est au sud. Il n'y a pas d'endroit dans le nord, dans le royaume du nord, où on peut dire là est la présence de Dieu de façon particulière. Il n'y a pas de ville où Dieu dit là j'ai choisi d'y placer mon nom. C'est toujours Jérusalem et le temple construit par Salomon. Voici un schéma qui vous donne les 12 étapes, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois que vous pouvez décortiquer chaque étape, surtout avec les supports que vous avez précédents. Ah oui, je me rappelle, j'avais un professeur en faculté théologique qui nous disait « La méthode d'étude, c'est une fois que vous avez suivi une séance, vous avez pris des notes, là vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de notes, hein, et bien rentrer ce soir-là réviser vos notes. Et 10 jours plus tard, et 30 jours plus tard. Et donc, c'est bien de réviser. Vous retiendrez beaucoup mieux, beaucoup plus, que si simplement vous écoutez aujourd'hui et vous rentrez chez vous. Donc, vous avez ce schéma pour vous aider à réviser. Maintenant, nous avons une grande nation. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça y est, c'est un but intermédiaire. C'est un instrument pour le grand but, le but ultime, que la gloire de Dieu remplisse toute la terre. Et que la connaissance de l'Éternel remplisse toute la terre, Habakkuk 2,14. Mais maintenant, à cause du péché de Salomon, la grande nation commence à se désagréger, à être amoindrie, à être divisée, et même plus grave que ça. Les problèmes commencent avec Salomon, le péché de Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, donc sa première épouse, la reine, des Moabites, rappelez-vous de Ruth, la Moabite, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, ah, plus tard on va voir une Sidonienne, des Éthiennes, ou empire Hittite, Éthien, les fils de Heth, H-E-T-H, sont aussi les Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. 700 femmes, 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. Remarquez l'importance du cœur dans ces passages. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Je crois que c'est 3 fois dans la Bible, David, un homme selon mon cœur. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon bâtit, je crois qu'il y a la page 2 maintenant, Salomon bâtit un haut lieu pour Kemosh. J'essaie de mettre un peu de dégoût dans ma voix quand je dis ces noms de Dieu, du Père. Et pour Moloch. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc les Israélites n'avaient pas le droit de se marier avec des gens d'une autre ethnie. C'est du racisme? Non. Ruth, la Moabite, était l'arrière-grand-mère du grand roi David. Elle était étrangère. Ce n'est pas une question ici de race. Une question de religion. Ces gens-là sont des païens. S'ils se convertissent au Dieu d'Israël, d'accord, c'est bon, c'est bien. Mais autrement, ne vous mariez pas avec elles ou avec eux. Est-ce qu'il y a le désir de garder la pureté de la race? Plus tard, dans la vie des Israélites qui deviennent plus tard des Juifs, il y a cette idée, pureté de race. Mais pas dans le texte biblique. Ce n'est pas une pureté de race, du tout. Et donc, on trouve dans le royaume de David beaucoup d'étrangers qui viennent dans le pays. Uri, donc, qu'il a trompé et qu'il a fait tuer, c'était un Hittite. C'était un étranger qui était un officier dans son armée. Et même, bon, ça c'est autre chose. Donc non, il n'y avait pas cette pureté de race. Et les Juifs aujourd'hui n'ont pas forcément cette pureté de race non plus. Beaucoup de Juifs se marient avec des non-Juifs en Europe, aux États-Unis, etc. Alors comment comprendre que Salomon, et tout cet attitude, il a mal fini sa vie, que s'est-il passé dans son cœur, dans sa tête? C'était un homme le plus intelligent. Et quelles conséquences voyons-nous? Il était au centre d'une très grande nation. Il recevait toutes les louanges. Imaginez un petit peu une star de football, une star de la chanson aujourd'hui, qu'on loue constamment, qui reçoit des rémunérations, ça leur va à la tête. Salomon aussi. Et peut-être, c'est pas écrit, mais peut-être qu'il s'est dit, ah oui, c'est vrai qu'on ne devrait pas se marier avec des femmes étrangères. Mais ça, c'est pour le peuple, c'est pas pour moi. Je suis le roi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être cette pensée-là qu'il avait. Et il oublie sa dépendance sur Dieu. Il oublie. Nous avons dit, nous notons les références au cœur dans ce passage. Et bien là, dans vos notes, vous avez Proverbe 4, 23. Excellent avertissement concernant le cœur. Entre parenthèses, le cœur, c'est pas seulement les émotions dans la Bible, hein, c'est l'intelligence. L'intelligence, l'émotion, le sentiment et la volonté. C'est le cœur. Hein. On peut dire le fort intérieur de l'homme ou de la femme. Eh bien, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Garde ta vie intérieure, ta façon de penser, plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Qui a écrit ça? Proverbe 4, 23. C'est Salomon. Salomon a écrit ça. Donc, on va prendre l'avis, le bon conseil de Salomon, mais pas son modèle. Exact, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Les conséquences à long terme du péché de Salomon, nous avançons rapidement ici. Autrefois, je disais, comme avec notre magnétoscope, bon, ça ne se fait plus, mais non, c'était il y a 15 ans. Mais on va dire, on avance. 300 ans plus tard, un bon roi en Juda, il mène un réveil. Et il veut souiller les hauts lieux païens. Le roi souilla, c'est-à-dire il détruisit les hauts lieux païens qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti. 300 ans plus tard, on détruit les hauts lieux, les autels qu'il avait bâtis à Astarté, l'abomination des Siloniens. Quel moche! L'abomination de Moab et à Milcom. Remarquez, répétez, l'abomination. On est censé respecter les gens, mais pas les démons. On ne respecte pas les démons. Et malheureusement, la pression sur nous veut qu'on respecte toutes les religions. Moi, je respecte les personnes religieuses, mais pas forcément le fond de la religion qui les mène de travers. Ils sont victimes. Donc, 300 ans plus tard, des effets nationaux très profonds et très longs. 500 ans plus tard, on a, après l'exil, un retour sous Zorobabel, Esdras, Néhémie, que nous verrons dans le mois prochain. Mais là, Néhémie écrit ceci sur la réforme que lui a menée. Et là, il y a des mots assez violents. On ne va pas forcément nous attarder là-dessus. Et il dit, je prie ses compatriotes qui s'étaient mariés avec des femmes païennes. J'ai pris à partie, j'appelais la malédiction sur eux. Je bâtis même quelques-uns d'entre eux. Et je leur arrachais les cheveux. C'est violent, ça. Hein? Je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à des fils d'étrangers. Et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous-même. Et cite la loi de Moïse, et cite la loi de Deutéronome. N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché? Lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations païennes, qui était aimé de son Dieu, et que Dieu avait établi roi sur tout Israël, et pourtant, même lui fut entraîné dans le péché par les femmes. Même un homme spirituel, un homme intelligent, le plus sage de tous, comme Salomon, fut entraîné par ce genre de choses. Alors, ne pensez pas que vous échapperez. Attention, on ne se moque pas de Dieu. ce qu'un homme aura semé, le récoltera aussi. Faut-il donc entendre dire de vous que vous commettez ce grand mal et que vous êtes infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères? Encore une fois, ce n'est pas simplement le fait qu'elles étaient étrangères, mais qu'elles étaient païennes, qu'elles étaient idolâtres. Donc, je crois que l'application pour nos autres chrétiens, c'est que nos mariages doivent être un chrétien avec un chrétien. Hein. Oui. Exact. Non, 500 ans après seulement. Ah, c'est, oui, c'est pas. Oui, c'est pas. Je crois pas, non. Voyons. C'est 500 ans plus tard que Salomon, oui. Effectivement, c'est ambigu. Page 3, on va revenir à Salomon pour l'instant, pas à Néhémie. Réaction de Dieu. Le texte est clair. Il y a quelques expressions terribles dans ces textes, page 3. 1 roi 11, l'Éternel fut irrité. Dieu a des sentiments, Dieu a des émotions. Dieu est amour, oui, mais vous savez que Jésus fut irrité plusieurs fois, quelques fois. Pas énormément, pas tous les jours, hein, mais il y avait des choses qui irritaient. Il était même fâché. Hein. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Pourquoi ? Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Remarquez la responsabilité de Salomon. Hein. C'est pas, l'autre texte disait ces femmes ont détourné son cœur. Là, c'est Salomon a détourné son cœur. Qui lui était apparu deux fois. Combien de fois le Seigneur vous est apparu ? Directement dans vos rêves ? Moi, il ne m'a pas apparu. Et là, pas une fois, mais deux fois. Oui. Moïse, Abraham et Moïse, c'était particulier. Moïse, il entrait tous les jours, à certaines périodes, dans la présence de Dieu, il en sortait, son visage lui. Mais Salomon, deux fois, pas une. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, remarquez la conséquence. Salomon était héritier de deux alliances inconditionnelles. L'alliance avec Abraham, de bénédiction sur ses descendants et sur toutes les familles de la terre, à la longue. L'alliance faite avec David, où Dieu a dit il y aura toujours quelqu'un pour régner sur le trône de David. Mais il était héritier aussi d'une alliance conditionnelle. Et l'application de l'alliance avec David dans la vie de Salomon et de son fils Roboam était conditionnée par l'obéissance à l'alliance à Sinaï, l'alliance du temps de Moïse, qui est conditionnelle hein, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, c'est à Sinaï, hein, je déchirerai, remarquez la violence du verbe. On est censé ressentir là quelque chose de terrible arrive ici. Je déchirerai le royaume de dessus toi. Je ne ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père, le grand David. Le grand David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. On a deux verbes extrêmement violents. Ça accentue la gravité du péché. Ça accentue la détermination de Dieu d'accomplir son objectif. Et on ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu dit « je vais faire quelque chose », c'est certain qu'il va le faire. Il faut l'écouter. Mais, et pourtant, il y a une promesse qui suit tout de suite. « Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu, en fait c'est deux qui deviennent une, hein. Une tribu à ton fils, donc Roboam, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. » Donc voilà, deux choses, si on peut dire ainsi, importantes dans la pensée de Dieu. Jérusalem, la ville où j'ai placé mon nom. Mais David, fondateur de la dynastie, d'où viendra le Seigneur Jésus-Christ. L'accomplissement de ces terribles promesses. Il y a un homme qui s'appelle Jéroboam. Alors, vous avez le fils de Salomon qui s'appelle Roboam, donc les cinq dernières lettres. Et vous avez un autre homme qui n'est pas de la famille de David, qui s'appelle Jéroboam. Et Roboam devient le roi du sud, le royaume du sud, Juda. Et Jéroboam va devenir le roi du royaume du nord. J'ai toujours eu du mal à me rappeler lequel était au nord et lequel était au sud, mais j'ai trouvé une méthode simple. Roboam a moins de lettres que Jéroboam, et sud en français a moins de lettres que nord. Donc si ça vous aide, hein, le sud, moins de lettres, Roboam. C'est qui Roboam? Eh bien, c'est un jeune homme qui s'est distingué dans les travaux autour de Jérusalem. Et Salomon a aperçu son efficacité, l'a fait contremaître. Et donc, de ses travaux construire les remparts de la ville. Et puis, je ne me rappelle plus exactement comment il y avait une brouille, mais Jéroboam a dû fuir, il est allé en Égypte, fuir la colère de Salomon. Ça, je ne me rappelle plus maintenant comment ça s'est passé. Mais, oui, bien sûr, c'est arrivé après cet événement, voilà. C'est à cause de cet événement, bien sûr. Achija rencontre Jéroboam, il est déjà vieux, le prophète Achija, et il porte un manteau neuf. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déchirer un tissu tout neuf, c'est pas facile. Peut-être que le Seigneur lui a donné la force pour le faire, mais il prend son manteau, il dit, Jéroboam, viens ici. Et il déchire son manteau en 12 morceaux. Il dit, prends-en 10 morceaux pour toi, j'en garde 2. Pourquoi ? Eh bien, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher, de nouveau, ce verbe, arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai à toi, Jéroboam, 10 tribus. C'est pas un mystère pourquoi il fait ça. Parce qu'ils m'ont abandonné. Ils se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux. Donc, Jéroboam, le Seigneur te donne 10 tribus, la plus grande majorité des tribus de la nation. Page 4. Quelle occasion en or pour cet homme Jéroboam de recommencer à zéro. Vous connaissez ce chant, tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro, tu peux tout recommencer. Ça vient de Roman sur Isère, ce chant-là, où j'habitais avant. Bien, à page 4, il y a une condition. Jéroboam, c'est pas je donne carte blanche. Non. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Achija, je serai avec toi. Je l'ai mis en gras dans mon note, n'est-ce pas ? Je serai avec toi. La présence de Dieu, c'est tout. Ce n'est pas 99% de l'importance, c'est 100% de l'importance. La présence, bien sûr, la bénédiction du Seigneur. Je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Ah tiens, il veut un palais, il aura... Non, ce n'est pas un palais dont il parle ici. C'est une dynastie. C'est-à-dire, son fils, son petit-fils, etc., régnerait sur le trône. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David... Et je te donnerai Israël, comme je l'ai donné à David. C'est étonnant ça, non? Abraham, je ferai de toi deux grandes nations. C'est pas étonnant, ouais. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait, bien sûr. Hein. Mais quelle opportunité, là, de bien régner, de recommencer à zéro. Il y aura deux peuples de Dieu. Je ne sais pas comment ça se serait passé si c'était comme ça, mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Il n'y a pas eu deux peuples de Dieu là donc. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, Roboam, il arrive au trône d'Israël, les 12 tribus, à la mort de son père Salomon. Et les gens viennent le voir, ce sont surtout les gens du Nord, les tribus du Nord, qui viennent le voir. Et disent, ton père nous a imposé de lourdes impositions. Je ne sais pas s'ils portaient tous des gilets jaunes, mais bon. Ah, oui, effectivement. Alors, ça dépend comment on définit bon. Mais effectivement, il y en a qui trouvaient qu'il fallait faire trop de corvées, etc. Ils étaient appelés. Bon, allège la servitude. Le roi Roboam, il dit, revenez dans 3 jours. Il consulte les conseillers de son père, qui ont au moins 68 ans, comme moi, qui sont sages, et puis qui disent, ah, si tu es gentil avec ce peuple, si tu allèges leurs impôts, tu pourras toujours gouverner, hein, mais ils te seront loyaux. Hein, voilà, jusqu'à la fin de tes jours. Je ne sais pas s'il n'aime pas ça, il va voir ses camarades de CP avec les agrandis qui tutoyaient. Et eux disent, non, il faut être dur avec ces gens. Tu vas leur dire, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous fouettait avec des fouets, je vous fouetterai avec des scorpions. C'est un peu peu difficile de voir si les scorpions attachés au bout des fouets, et, bah, et pique, ça pique à tous les coups, mais bon, non, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est imagé, n'est-ce pas? Et donc, il prend ce discours-là, et il leur répond, non, je serai dur avec vous. Vous croyez que vous étiez imposé, ben, je vais ajouter 5% cette année, 10% l'année prochaine, etc. Et donc, comment répondent les gens du Nord? Avec la phrase consacrée, à tes tentes Israël, que chacun rentre chez lui sous sa tente. Ben, ils n'habitaient pas les tentes, c'était les maisons en dur qu'ils habitaient. Mais c'est une phrase depuis des siècles et des siècles, du temps où ils étaient nomades avec des tentes. Les garçons aujourd'hui en France, moi j'ai joué aux billes quand j'habitais Château dans la Seine-et-Oise, j'avais 8-9 ans, on jouait aux billes dans les rues en rentrant chez nous. Et si on se fâchait, ben on prenait ses billes, on rentrait chez soi. Alors on joue au foot et puis on se fâche, et celui qui est propriétaire du ballon, il prend le ballon, il rentre chez lui, il n'y a plus de jeu. C'est un petit peu ça. Hein. Et puis, oui, j'ai aussi marqué, annoté la tendance d'Israël et de Juda à se séparer déjà dans le passé de Samuel, etc. Il y a eu des tensions entre le nord et le sud déjà. Donc, c'était des failles d'une manière sociale. Et il y a cette rupture, donc. Et les gens du nord ont fait au roi Jéroboam. Mais Juda a resté loyal, et Benjamin aussi, à Roboam. Rupture au risque d'une guerre civile, chapitre 12. La grande nation arrive au bord de la guerre civile. Mais Dieu intervient et leur dit par un prophète, ne montez point, et il dit aux gens du sud, ne montez pas pour faire la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car, tu peux en remplir, c'est par moi que cette chose est arrivée. Je crois que cette phrase est donnée à la Bible pour être clair que c'est Dieu qui agit, c'est lui qui est souverain. C'est arrivé parce qu'ils avaient été infidèles. Remarquez qu'il y a un petit miracle ici, ils obéirent à la parole de l'Éternel. Un peuple infidèle, grosso modo, qui obéit, oui, ça c'est merveilleux. Hein. Donc, il n'y a pas eu guerre civile. Plus tard, il y en a eu. Hein. Il y a eu guerre civile, au moins deux fois plus tard. Mais là, on a cette image avec la déchirure. J'ai le royaume du sud à gauche et le royaume du nord à droite. Ou plutôt, j'ai le royaume uni. Le royaume, c'est pas le royaume uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, hein, mais le royaume unifié à gauche et le royaume divisé. Donc, parfois, on trouve ces deux termes dans l'étude de la Bible, le royaume uni et le royaume divisé. Et donc, on a 10 tribus au nord, 2 tribus qui deviennent une seule, on parle de Juda. Et remarquez toujours qu'on a la couronne, donc à droite ici, la couronne représente la dynastie de David. David, Salomon, Roboam. Ah, j'oublie qui était le quatrième. Bon. Et il y en a eu plusieurs. Et aussi, le carré représente Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y placer mon nom, dit l'Éternel. Et le carré représente aussi le temple, hein, la maison de l'Éternel et la gloire entre les chérubins. Voilà la situation. Mais pourquoi Dieu laisse-t-il 2 tribus à Roboam, fils de Salomon, c'est une conséquence de quoi? À cause de David et de Jérusalem. 1 roi 11, on l'a déjà lu, je crois. Mais Salomon aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ce verset n'est pas dans votre support. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je trouve ça intéressant. L'homme fondateur de cette dynastie, David, auquel j'ai promis qu'il aura toujours un descendant, et la ville elle-même. Je vais me dire, plus tard cet après-midi, on va voir qu'il y a un dernier roi dans la lignée de David qui est emmené en exil, prisonnier à Babylone. Et la ville elle-même est détruite. Et le temple sera détruit. Donc, comment la promesse de Dieu? Il y a une sorte de lapsus, mais ça reprend plus tard. C'est un peu difficile pour moi de résoudre ça, mais comment résoudre la tension entre l'alliance inconditionnelle de 2 Samuel 7, tu auras toujours, toujours la page 5, à gauche, là, 2 Samuel 7, 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et les conséquences graves du péché de Salomon, je serai pour Salomon un père, sera pour moi un fils, s'il fait le mal, je le châtierai. On a un mélange ici de inconditionnalité et de conditionnalité. Vous vous rappelez, la dernière fois, je crois, on a dit, la promesse elle-même est inconditionnelle, son accomplissement ultime est inconditionnel, mais son application à chaque génération est conditionnelle. Ça fait penser à la génération dont les cadavres sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas reçu le pays. Ils auraient pu, ils n'ont pas reçu. Résolution 2 Samuel 7,15 « Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retirée de Saül. » Avec Saül, Dieu a dit « C'en est fini, j'arrête cette dynastie. » Ça ne se passera pas comme ça avec Salomon et ses descendants. Donc nous sommes à la page 5, à peu près à moitié, avec de nouveau ce symbole qui symbolise étape 1. Nous sommes dans acte 1, la nation, scène 2, la déchéance, étape 1, la division du pays. C'est fait maintenant, nous avons deux royaumes. Le royaume du Nord, qu'on appelle aussi Israël. Dans les livres de rois et de chroniques, on appelle le royaume du Nord Israël constamment, donc il ne faut pas confondre. Et là, nous avons un schéma qui donne 5 périodes d'histoire, 3 périodes de conflit, de guerre civile, entre les deux royaumes en tout cas, et 2 périodes de paix, on va dire paix et harmonie, peut-être pas complètement harmonie. Et cette première période de paix qui est marquée par le numéro 2, on a le ministère de Élie, suivi du ministère d'Élisée. Nous allons nous attarder un peu là-dessus. Remarquez qu'au nord, il y a 10 tribus, au sud, il y en a 2. Souvent, on dit une seule. Le nord a duré 211 ans et le sud a duré 347 ans. La différence, je n'ai pas marqué maintenant. Au nord, il y a eu 19 rois, qui ont successeurs de Jéroboam. Et le sud a eu 20 rois, successeurs de Roboam, successeurs de David, Salomon et Roboam. Au début, il y a eu la guerre, le conflit, ensuite la paix et une alliance. Ah, la maison royale du nord, de Samarie, a fait alliance avec la maison royale du sud, la maison de David. C'est bien ça, une alliance de paix, n'est-ce pas? Vous aimez la paix ou vous aimez la guerre? Moi, je préfère la paix. Attention, la paix peut être dangereuse. Ensuite, la guerre, le conflit, ensuite la paix, la prospérité, finalement la guerre. Et Juda est attaqué par Israël et Syrie. Je n'ai pas dit la Syrie, normalement en français on dit la Syrie, seulement vous pouvez comprendre que je dis elle apostrophe Assyrie, parce qu'il y a Syrie et Assyrie. Donc quand je parle, je vais pas dire la Syrie et la Syrie, je vais dire Syrie et Assyrie. C'est pas tout à fait correct, mais bon. Page 6, les conditions politiques des deux royaumes. Le sud est très stable. Il y a une seule dynastie, la maison de David, et il y a eu 4 rois qui ont régné plus de 30 ans chacun. Mais dans le sud, c'est instable, il y a 9 dynasties. 9 dynasties, pardon, dans le nord, qu'est-ce que je dis, le sud? Le nord a eu 19 rois, 6 ont régné moins de 2 ans. Il y en a un qui a régné un mois. Et normalement, le roi se faisait attaquer, un général se révoltait contre lui. Ça rappelle certains pays dans le monde aujourd'hui. Un général se révolte contre lui, il prend sa place. Mais tout de suite, derrière, suit un autre officier de l'armée qui n'est pas satisfait. Voilà. Donc, numéro 3, à la page 6 toujours, détérioration des relations internationales des petits États que David avait conquis et qui était tributaire à Salomon, qui payait un tribut annuel, eh bien, se révolte. Les Moabites se révoltent, les Édomites se révoltent, etc. Syrie terrorise le royaume du Nord, Israël, et dans une moindre mesure, Juda aussi. Petit b, des nations plus larges commencent à dominer, à menacer. Par exemple, l'Égypte. Et je ne sais pas marqué là, l'Empire Hittite et l'Égypte aussi avaient été très puissants dans le passé, ces deux empires. Égyptiens, l'empire hittite, ils ne le sont plus. dans la période de David et de Salomon, ils ont une baisse de régime, sont dans un déclin de puissance. D'ailleurs, l'empire hittite qui recouvrait un tiers à peu près de la Turquie actuelle et la Syrie, et qui dominait aussi sur le Moyen-Orient, au début du XIXe siècle, les érudits en Europe et en Amérique du Nord ne connaissaient pas du tout l'empire des Hittites. Ils disaient « la Bible a inventé quelque chose ». C'est pas vrai. Plus tard, on a découvert toute une culture hittite. La Bible a été vraie. Mais donc, ils sont en baisse de régime. Et puis, Ninive, les Assyriens ne sont pas encore sur la scène. C'est un petit peuple. Et les Babyloniens aussi. C'est un petit peuple. Ils ont pas. Mais au fur et à mesure, les Assyriens vont dominer tout le Moyen-Orient. Et les Babyloniens aussi. Voilà, conditions politiques. Maintenant, conditions religieuses. Grand C. L'invasion religieuse d'abord d'Israël, le royaume du Nord, et du Juda, le royaume du Sud, pendant une période de paix. La paix est dangereuse. La paix peut être dangereuse. Il y a un roi païen de Sidon, la ville de Sidon, deux villes importantes, Tyr et Sidon. Et Sidon, je crois que Tyr est tout près de là où est Beyrouth actuellement, pas sûr. Et Sidon un peu plus au sud. Mais ce roi Ethbaal, il porte le nom de Baal, dieu païen dans son nom, il a une fille, je ne sais pas si elle est belle ou non, mais elle s'appelle Jézabel. On connaît Jézabel. Elle arrive en Syrie parce que et elle se marie donc avec le roi Akab, un mauvais roi du royaume du Nord. Elle arrive avec des bagages, et dans ces bagages, 850 missionnaires ou fonctionnaires. 400 de Baal et 450 d'Astarté, ou l'inverse, j'oublie. Baal et Astarté. Le dieu Baal, Baal, parfois c'est les Baal, c'est plusieurs, ça veut dire seigneur, je crois. Hein. Et puis Astarté, déesse de la fécondité. Et donc il y avait des pratiques sexuelles liées à son culte. Elle arrive avec ses fonctionnaires, ses prêtres de Baal et d'Astarté. Elle persécute ceux qui croient en Yahvé, le vrai Dieu d'Israël. À un certain moment, Élie, qui est tellement découragé, il dit au Seigneur, je suis le seul qui reste, qui t'est fidèle, et le Seigneur lui dit, non, j'ai encore, sur les 3 ou 4 millions d'Israélites dans le Nord, je ne sais pas combien ils sont, hein, 3, 4, 5 millions, j'ai encore combien ? 7 000, vous connaissez ? 7 000, c'est très peu, hein. Quand même, c'est plus qu'un seul. Et donc, la vraie foi en Yahvé, le Dieu d'Israël, c'est une minorité, un reste. Pluralisme religieux ? Pas du tout. Elle cherchait à les mettre à mort. Deux personnages qui ont lutté contre le culte de Baal et d'Astarté, bien sûr, vous avez deviné, c'est les deux prophètes, Élie et Élisée. Élie et Élisée, qui étaient instruments de pas mal de miracles. J'ouvre une petite parenthèse. Je crois qu'on a compté 7 miracles du temps d'Élie et 14 du temps d'Élisée. Moi, je n'ai compté 16. Pourquoi on m'a donné 7 et 14, je ne sais pas. Mais et en fait, si vous pensez à l'histoire biblique, on commence dans la Genèse pour vous, puis on arrête. Il y a relativement peu de miracles jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Moïse et de Josué. Avec Moïse et Josué aussi, pour la conquête du pays, il y a des miracles extraordinaires et beaucoup, beaucoup. Donc on a un pic de montagne là. Jusqu'à Élie et Élisée, il y a relativement peu de miracles. Il y en a, de temps à autre, mais avec Élie et Élisée, 7 et 14, ou je ne sais pas combien, 16, un autre pic. Et jusqu'au temps de Jésus, il y a encore une période où il n'y a pas énormément de miracles, il y en a de temps à autre. On arrive, Jésus fait énormément de miracles, et les apôtres aussi. Un petit peu comme Moïse et Josué. Donc, c'est pas vrai qu'il y a des miracles partout dans la Bible. Il y a trois grandes périodes. Quelles conséquences sont tirées, je ne sais pas, mais Dieu ne donne pas énormément de miracles dans chaque siècle, chaque décennie. Élie et Élisée ont un rôle vital dans l'histoire d'Israël, pas simplement en faisant de miracles, hein, mais pour raviver la foi dans le seul vrai Dieu d'Israël, qui était prêt à disparaître. J'ai marqué là les écoles des prophètes. Ça, c'est Élisée. Élie, je ne crois pas qu'il avait des écoles des prophètes. C'est mentionné seulement Élisée. Il était fondateur et peut-être parfois directeur d'instituts bibliques partout en Israël. Et donc il a formé des jeunes, peut-être des moins jeunes aussi, de jeunes maris et pères. Ils avaient des femmes, des enfants, mais ils se formaient dans la loi de Moïse pour pouvoir enseigner le peuple, évangéliser, c'est un mot qui est du Nouveau Testament, mais on peut dire l'Ancien Testament, pour garder la flamme et raviver la flamme. Maintenant, cet épisode, page 7, numéro 3, Judas en grand danger. On a dit, Jézabel est arrivée en Israël avec 850 fonctionnaires, prêtres de Baal et d'Astarté, mais elle a eu un effet sur Judas aussi. Les adorateurs de Baal ont presque pris le contrôle aussi de Judas, à cause des mariages royaux avec des idolâtres. Il y avait un bon roi du sud, c'est-à-dire de Judas, qui a fait une grande erreur. Et donc là, vous avez un petit peu les dessins. À gauche, la maison d'Aza, Judas, c'est un ancêtre de Josaphat, c'est un des rois. Je ne me rappelle pas si Aza était un bon roi ou pas. Je crois qu'il était un bon roi. Mais son fils, Josaphat, est un excellent roi. Pas seulement dans le sens politique du terme, mais un excellent homme de Dieu, hein, qui a fait confiance au Seigneur de façon extraordinaire. Mais il a fait une alliance désastreuse avec le roi du Nord, Akab, descendant d'Omri. Et donc, vous avez là le fils de Josaphat et de son épouse, dont on n'a pas le nom, qui s'appelle Joram, qui va devenir le roi de Juda. Josaphat et Akab et Jézabel, ils disent, ben marions-les, hein, pourquoi pas, Joram et Athalie, notre fille, et Athalie, fille de Jézabel. Fille de Akab, oui, mais pas d'une autre reine, mais de Jézabel. Vous savez qu'ils avaient plusieurs épouses. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur, dans l'esprit de Josaphat pour faire ça? Parce qu'il ne voyait pas les conséquences. Ben, les conséquences, on peut le voir avec le dessin suivant. On a de nouveau là les mêmes personnages, Joram et Athalie. Joram a accédé au trône de Juda quand son père est décédé. Et il a régné, voyons dans mes notes, plusieurs années, je ne me rappelle plus combien, ce n'est pas important. Il fut tué en bataille par Jéhu d'ailleurs. Jéhu, le général qui s'est révolté contre son roi dans le nord. Mais Joram n'était pas un bon roi. Hein. Avec son épouse Athalie, ils ont été infidèles au Seigneur. Quand Joram est mort donc en bataille, Akazia, son fils, est venu au trône, régné très peu de temps, un an seulement. Je vois dans mes notes maintenant, Joram a régné 8 ans. Et non, il ne meurt pas en bataille, il meurt d'une maladie. Tiens. Mais après la mort de son mari Joram, Athalie, donc elle donne très mauvais conseils. Il y a un seul verset qui dit, elle a conseillé à Akazia de faire le mal, on peut imaginer, d'adorer Baal et Astarté. Mais Akazia, lui, va être tué en bataille, si je ne me trompe pas. Akazia est tué par Jéhu, qui massacrait la maison d'Akab, d'après l'ordre du Seigneur d'ailleurs. Et donc, voilà, Akazia est mort, qui va régner maintenant? Ben, un autre fils de Joram, ou je sais pas, quelqu'un de la famille royale? Eh bien non. Parce que, voilà, ce dessin-là, que vous avez, page 7 toujours, Athalie tue tous les descendants mâles de la famille royale. Enfin, elle pense avoir tué tout le monde. Remarquez que certains, c'est pas explicité, mais certains étaient ses propres petits-fils. D'autres étaient les petits-fils d'autres épouses du roi, peut-être. Hein. On ne voit pas exactement. Mais elle les tue tous. Et elle règne pendant 6 ans, je crois. Elle règne pendant 6 ans et elle fait du mal. Elle fait du mal. Elle entraîne Judas dans l'idolâtrie. Seulement, il y a une femme qui s'appelle Josheba. Enfin, dans le livre de Rois, elle s'appelle Josheba. Dans le livre des Chroniques, elle a un nom un petit peu différent, Joshabeat. C'est la même personne. Elle est princesse. Elle est fille du roi Joram et sœur du roi Akazia qui vient de mourir. Qu'est-ce qu'elle fait quand il y a le massacre des innocents à Jérusalem? C'est pas à Bethléem cette fois, c'est à Jérusalem. Massacre des innocents. Eh bien, elle subtilise un bébé, un garçon, un petit garçonnet de 1 an, et c'est écrit dans le texte, elle le cache. Elle le cache où? Vous vous rappelez? dans la chambre d'Élie. Pas d'Élie le prophète. La chambre où on met les matelas, les lits, on stocke les lits et les matelas. Et donc j'imagine bien les matelas stockés les uns sur les autres. Elle écarte quelques matelas, elle subtilise et le cache. Pas combien de temps il est resté là, mais le plus rapidement possible, elle l'emmène dans son appartement à elle. C'est où son appartement? C'est au temple de Jérusalem parce qu'elle est mariée, elle, la princesse Jochebed. Il y a deux noms, je ne sais quoi encore. Jochebed ou Josheba. On va garder le nom du livre de roi. Josheba est marié au grand prêtre, le souverain sacrificateur, Jéhojada. Ils n'avaient pas le célibat dans la prêtrise en Israël du tout. Et donc, ils le cachent pendant 6 ans. Et après, ils vont le faire publier qu'il est roi. Il a maintenant 7 ans, si je ne me trompe pas. Et au temple, ils ont des gardes qui ont des tournées de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures, j'oublie exactement combien. Et puis, Jéhojada, il dit au chef des gardes, quand vous avez donc votre tour de rentrer chez vous, manger votre souper, vous coucher, ben, n'y allez pas, restez quelques instants, restez une demi-heure là. Et puis les autres qui arrivent, donc ils sont double des gardes, et là, ils sonnent des trompettes, on a ici, vive le roi, vive le roi. Athalie entend cela, elle crie conspiration, conspiration, elle s'enfuit. Jéhojada dit, ne la tuez pas ici dans le temple, on la tue en dehors du temple, mais elle est mise à mort. Et donc la lignée royale de la maison de David continue par ce dernier survivant. Maintenant, peut-être qu'il y aurait eu d'autres lignées, des cousins, etc., qui descendaient aussi de David. Mais de toute façon, la lignée directe des rois était prête à disparaître, sauf l'intervention. C'est un petit peu, on voit l'intervention de Dieu par l'action de Josheba et de Jéhojada. C'est pas écrit en noir sur blanc, Dieu a dit à Josheba, fais comme ceci, mais on voit que Dieu préserve la lignée royale. Parce que son projet, c'est que par cette lignée royale et par ce peuple qui lui reste fidèle, eh bien, toutes les familles de la terre seront bénies. Page 8, conclusion. On revient au départ de la division du royaume, c'est une longue conclusion, au début de l'étape 1 de la scène 2, donc à Jéroboam. Un regard en arrière, comment est-ce possible qu'Israël, au royaume du Nord, ait pu en arriver là? Est-ce que j'ai déjà dit, dans le royaume du Nord, où il y a eu 19 rois, il n'y a pas eu un seul qui était fidèle au Seigneur? Je ne l'ai pas encore dit là. Il n'y a pas eu un seul, pas un seul, pas un seul, qui a suivi le Seigneur en 211 ans et 9 dynasties. Dans le royaume du Sud, il y a eu 20 rois et c'était tous descendants de David. Combien sur les 20 étaient fidèles au Seigneur? 8. 8. Un roi sur 2 à peu près, 8 sur 20. Et 4 de ces 8, la moitié de ces 8 étaient d'excellents hommes de Dieu, fidèles au Seigneur, qui lui faisaient confiance, qui faisaient des réveils, qui menaient des réveils. J'ai ces noms quelque part. On a déjà mentionné Josaphat, il y a Joas, il y a Ézéchias, excellent roi, et il y a un autre, Joas et Josias, je crois. Josias. Le royaume du Nord, les choix de Jéroboam, la culture de péché du royaume du Nord, c'est pas simplement quelques péchés, c'est toute une culture. C'est ce que ça veut dire qu'une culture qui vous emmène dans le péché, où on s'attend à, par exemple, actuellement je lis tous les jours, presque tous les jours, une page sur une des castes en Inde. Et il y a 100, il y a combien de castes en Inde? 6 à 7 000. Mais il y a 100 castes où il y a plus de 1 million de personnes, où il n'y a presque pas de chrétiens du tout. Donc j'ai un ami en Inde qui a participé à confectionner ce livre. Et donc il y a des cérémonies de naissance ou cérémonie de mariage où il y a un sacrifice à faire au Dieu qu'adore cette caste. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On va se marier sans faire ses coutumes. La culture d'idolâtrie pousse même les gens qui veulent être fidèles. Donc, elle a commencé avec son premier roi, Jéroboam. Et ils ne sont jamais remis du péché du fondateur de leur royaume. La fondation de quelque chose est extrêmement importante. Rappelons-nous, sous Josué, la première bataille Jéricho, un seul homme a péché, et Dieu a dit, si c'est comme ça, la prochaine bataille, vous allez perdre. C'est grave, hein? Et puis on l'a mis à mort, à Caïn. Mais l'Église a commencé comme ça aussi. Quelqu'un a menti au Saint-Esprit et aux apôtres, et il a été foudroyé mort, et sa femme aussi. Et si nous ne sommes pas morts aujourd'hui, à cause de nos péchés, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, voilà, ils ne se sont jamais remis. Il avait l'opportunité formidable de recommencer à zéro, un nouveau départ. Et pourtant, le roi fit deux veaux d'or. Ça vous rappelle quoi? Un Sinaï avec Aaron. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Ah, un petit indice de pourquoi il a fait ça. Il ne faut pas aller à Jérusalem. Concurrence, évidemment. Il craignait de perdre le peuple. Assez longtemps, Israël, voici ton Dieu. Il désigne le veau d'or. Il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Peut-être qu'il était sincère dans cette déclaration, éventuellement. C'est-à-dire, c'est pas Astarté que je vous présente ici, c'est Yahvé, représenté par ce veau d'or. Et les gens ont suivi. Donc, le mensonge se faufile parfois avec une part de vérité. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, dans le sud du royaume, et il mit l'autre à Dan, dans le nord. Donc c'est Marseille et Dunkerque, un petit peu. Et Jéroboam établit une fête. Une fête pour Yahvé, peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai du mal à comprendre ça. Mais une fête au huitième mois, comme la fête des Tabernacles qui se célébrait en Juda, mois qu'il avait choisi de son gré. Dans Lévitique des Deutéronomes, les fêtes sont établies sur des dates précises. Il y a révélation. Attention, les gens qui disent, ah non, la Bible, donc c'est un registre des pensées religieuses des gens dans le passé, c'est pas une révélation. Donc on peut changer. Non. Moi qui l'avais choisi de son gré. Alors, je veux rappeler quelque chose dans l'histoire. Si je vous dis Brumaire, Pluviose, Germinal, vous connaissez Germinal, la Révolution, on va donner d'autres noms, même si les noms français traditionnels ne venaient pas de la Bible mais de l'histoire romaine, on a inventé d'autres, et puis on va faire des semaines de 10 jours. Vous avez essayé des semaines de 10 jours? C'est long. Je ne sais pas s'ils avaient le week-end, peut-être qu'ils travaillaient tout le temps, je ne sais pas. Mais ça n'a pas marché. C'est un petit peu comme ça. Donc, un roi qui fait un mauvais choix, Jéroboam, sa motivation, la chose la plus importante pour lui, les conséquences de son choix. La chose la plus importante pour Jéroboam, c'est quoi? Tu as deviné un petit peu. Confirmer son royaume, garder le pouvoir, ne pas permettre à ces gens de monter à Jérusalem pour les perdre. Éviter que le peuple adore au temple à Jérusalem. Sur une forme religieuse, puis pas un syncrétisme. Il a pu faire passer sa nouvelle religion en disant « C'est le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Et puis les gens qui ne discernaient pas. Mais peut-être... La demi-vérité, oui. Oui, tout à fait. Daron, oui. Et c'est Goebbels, je crois, qui a dit un mensonge répété assez de fois devient... les gens vont le croire. Mais peut-être qu'il avait raison, en quelque sorte, parce que le texte de 2 Chroniques 11, 13 à 17, dit qu'il y avait des Lévites qui ont déménagé du nord au sud. Des Lévites pieux, fidèles au Seigneur, qui ne supportaient pas et qui ont perdu leurs terres. Ils avaient des terres autour des banlieues des villes. Ils ont perdu leurs terres pour déménager vers le sud où ils n'avaient aucune attache, en tout cas je le pense, et ils devaient recommencer leur vie économique. Et certains fidèles les ont suivis. Et certains allaient sans quitter leur terre, mais montaient au fait de Jérusalem. Mais la plupart des gens du nord se sont pliés à la nouvelle religion, une nouvelle forme de religion. Ils ont suivi les péchés de Jéroboam. Il ne faut pas penser qu'il n'y avait que Jéroboam. Le peuple a suivi. Conséquence sur les générations futures, 19 rois d'Israël, pas un seul, n'a suivi le Seigneur. Souvent, dans le livre des rois et des chroniques, on a une narration qui ne commente pas. C'est rare qu'on a un commentaire moralisant. Deux rois 17, c'est très moralisant. Ça nous donne la raison de... Vous l'avez lu pour la séance prochaine. Mais souvent, dans ces écrits, souvent dans la Bible d'ailleurs, dans 1 Samuel, ou 2 Samuel, chapitre... Non, on va pas aller... Mais souvent... La Bible rapporte simplement les faits, sans moraliser. Le lecteur averti voit ce qui ne va pas. Petite parenthèse, nous autres chrétiens évangéliques, nous lisons la Bible en disant, mais est-ce que ce personnage-là est sauvé ou pas ? Et le texte ne dit pas. Le texte ne le dit pas. Et même, on pourrait émettre, vous allez réagir peut-être, un doute sur Judas, qui a trahi Jésus. Je dis un doute. Pourquoi ? Parce que Pierre, dans sa prière, quand il faisait référence à Judas, il n'a pas dit lui qui est allé dans la Géhenne ou en enfer. Il a dit il est allé en son lieu. Bon, le Seigneur connaît quel est son lieu. Mais ça, c'est la phrase dans Actes chapitre 1. Ça a été instruisant pour moi. Je n'ai pas le droit de décider ou de prononcer plutôt. Donc il y a conséquence du péché. Voici deux rois, chapitre 17, quelques versets, vous l'avez lu. Ce que je vous lis maintenant, ces extraits, il faut comprendre, c'est une très grande tragédie. C'est tragique ce qui se passe ici. Et je crois qu'il faut nous rappeler, explicitement chaque fois que nous lisons ces textes, dans cet instant, ce qui se passe ici est tragique. Ils n'écoutèrent point. Surprenant ? Il y a des hommes de Dieu dans la... D'accord, oui. Ah oui, persécuté, oui. Excellente question. Ah oui. Absolument. Absolument. Ça, j'entends que tu aimerais plus de clarté dans la Bible. Donc on va continuer. Hein. Mais ils n'écoutèrent point. Et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes pères, a dit Élie. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, donc Sinaï, hein, et les avertissements qu'il leur avait adressés. On verra plus tard que les avertissements sont venus entre guillemets, tôt le matin. Ils allèrent après des choses de néant. Il s'agit de quoi ? Des idoles. Hein. Et ils ne furent eux-mêmes que néant. On devient comme ceux qu'on adore. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel avait défendu d'imiter, page 9, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu, c'était de l'or. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, donc ça c'est plus tard. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, l'astrologie, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. C'est l'infanticide. Ils ont tué leurs propres enfants. C'est Milcom, l'abomination des Ammonites, qui demandait ça, entre autres. Et Moloch. Moloch, vous connaissez. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Dans un autre texte, il s'agit de prédire l'avenir. Attention, tout se pratique en France. Hein. Et ils se vendirent. C'est parlant, ce verbe-là. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. On parle aujourd'hui de l'esclavagisme moderne. C'est un fléau. J'imagine que personne n'a consciemment s'est vendu en esclavage au XXe siècle, au XXIe siècle. Ils sont pris au piège. Et là, ce qui est avancé, c'est qu'ils se vendirent eux-mêmes au péché. Nous sommes esclaves de personne, on dit les opposants à Jésus. La pratique constante du péché est un esclavage. Et on se vend à cet esclavage-là. Le jugement de Dieu, Dieu a fait connaître sa réaction, sa réponse, par son prophète Achija, encore lui. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam. Ça, c'est au tout début, hein. Ta dynastie, tes enfants vont être tués. L'Éternel frappera Israël. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, le fleuve Euphrate. Ce même verbe arracher, Achija avait dit à Jéroboam, le Seigneur va arracher le royaume à Roboam, le fils de Salomon. Et maintenant, plus tard, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 15 ans plus tard, il dit, le Seigneur va arracher Israël de ce pays qu'il leur a donné. Il livrera Israël, pourquoi ? À cause des péchés que Jéroboam a commis, le premier roi, et qu'il a fait commettre à Israël. Et les autres rois, vous avez lu ces textes, chaque fois en résumé d'un roi d'Israël du Nord, et il commit les mêmes péchés que Jéroboam. Jéroboam, le nom de Jéroboam revient, je ne sais pas si ça revient 19 fois avec ça, mais bon, c'est très fréquent. Effectivement. Saül aussi, Salomon aussi. Oui, tout à fait. Judas aussi, d'ailleurs. Oui, il a été choisi. Où en est le projet de Dieu ? Sous David et Salomon, c'est une grande nation capable d'être un modèle pour le monde entier. Mais on a vu que la sagesse ne suffit pas. J'ai presque dit la sagesse humaine. Je ne veux pas dénigrer ce qui est humain, comme nous le faisons constamment dans les églises évangéliques. Nous sommes censés être des êtres humains qui suivent le Seigneur pleinement en tant qu'êtres humains. Il n'y a pas de honte à être un être humain. Mais la sagesse humaine ne suffit pas. Il nous faut, on va dire la sagesse divine, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut la grâce de Dieu pour continuer, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait fallu à Salomon plus que ça ? Salomon a permis à ses femmes de détourner. Jéroboam, alors, quelle opportunité de recommencer. Mais Dieu enverra un jugement terrible sur le royaume du Nord. Il les avertit maintes fois. Où est-ce qu'on voit l'unité et la progression ? L'unité, c'est toujours le peuple de Dieu, c'est deux royaumes plutôt qu'un seul. D'accord, il y a une continuité. Progression ? Non. Non, dégression. Dans le nord, c'est clair, hein. Mais même dans le sud, 12 sur 20. Régression, merci. C'est une progression, régression. Ben oui. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Non, on ne voit pas de progression. Que fait Dieu pour protéger et cultiver ? Deux verbes choisis, hein. Son projet. Il ne va pas toujours protéger son peuple. Il va permettre des désastres. Mais il va protéger son projet. Il va cultiver son projet. Ce ne sera pas tellement évident de voir. J'avoue que je ne voyais pas. Mais il y a quelqu'un qui est né en Autriche, qui a su nous donner un mot. On verra la prochaine séance. On peut faire un break de 5 minutes ou 10 peut-être. Oui, de reprendre sur le mot régresser. Ah non, non, pas du tout, non, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, non. Oui. J'avais plus d'un an quand je suis arrivé en France. J'ai fait l'école maternelle française. Château dans la Seine-et-Oise. C'est même dans les écoles. Tu connais la région? Oui, oui, tout à fait.
Je suis à Paris 8e.
Ah bon, d'accord. Je ne connais pas les arrondissements parisiens.